With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Elle est méchante avec mon chat.
Non, mais elle lui pète dessus, c'est elle qui est méchante. Elle m'envoie une vidéo de son chat sur ses fesses, elle venait lui péter dessus en fait.
Attends, vois. Est-ce que ça tourne? Est-ce qu'on peut le garder s'il te plaît?
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais?
Oh, ça swing.
Bonsoir, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. C'est le 110e épisode aujourd'hui. Je suis Alix Martineau, je suis votre hôte, je suis journaliste chez Mademoiselle et chargée des podcasts. Enchantée, avec moi, ce soir, nous avons Mimi.
Coucou. Ouais, Mimi la plus belle.
Ouais.
Mimi.
Oh là là, merci.
C'est pas vrai aujourd'hui, mais merci. Il y a des jours où c'est vrai, pas aujourd'hui. Mais merci Camille.
On va toujours, je trouve.
Putain. Bon, ça va.
Avec toi, Marie.
Et en parlant de Marie, elle est là aussi ce soir.
Bonjour.
Waouh, Mary.
Hello.
Keep Lige.
Et
quoi? Il est incontournable, Kalindi.
Et il y a aussi, bien sûr, comme vous l'avez bien entendu, Kalindi.
La merveilleuse.
L'incroyable Kalindi. Tu m'as manqué.
Il faut absolument que je vous lise un truc.
Déjà,
parce que en fait,
t'as déjà la connerie, Martino.
En fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Un rêve. Anne qui a fait Alix Martineau. J'ai rêvé que j'étais sur un groupe WhatsApp avec toi et Kalindi. C'est en référence au bonsoir qu'elle a fait, d'accord. Et j'avais pas vos numéros, donc je savais pas qui était qui, mais j'ai pu vous différencier quand tes messages ressemblaient à
ah blablabla, grouti grouti, t'as d'un coup là.
Et ceux de Kalindi, c'était genre ok, point.
C'était le premier.
Oh, c'était moi. J'ai ri au réveil. Merci de me faire rire dans mes rêves. C'est drôle quand
c'est
même.
C'est
en référence. On va avoir une nouvelle rubrique, les gens qui rêvent de nous.
J'adore. Cela dit, c'est un rêve qui est bon. Tu vois, ton inconscient, il peut inventer vraiment ce qu'il veut et il invente être dans un groupe WhatsApp.
C'est pas dingue.
Vous auriez au moins pu être sur un bateau ou je sais pas, toutes les trois, mais non, c'est un groupe WhatsApp.
C'est clair.
Mais surtout, elle a écrit les messages que j'envoyais vraiment en caps lock avec 8000 emojis. Ah ouais, putain.
C'est vraiment quel genre de
c'est meuf. Comme ça que les gens te voient.
Mais pour moi, Alix, vraiment, c'est un labrador, quoi.
Ah putain.
Non, mais c'est vrai, elle a l'enthousiasme des jeunes labradors, tu vois.
C'est trop bien.
Ah, moi, j'adore les labradors. Hein. Mais mon chien, quand j'avais mon chien, il respectait pas les labradors. Genre, il s'asseyait dessus. En fait, c'était des femelles.
Il s'asseyait dessus.
Il s'asseyait que si c'était des labradors femelles. Il s'asseyait jusqu'à étouffer le chien. Parce qu'en fait, elle voulait se taper des labradors mâles. Et donc, elle rentrait en compétition avec tous les labradors femelles. Mais elle faisait pas ça, genre, avec les teckels, tu vois. C'était que labradors femelles. Voilà, c'était le point chien.
Mais c'est elle qui t'a élevé, non? Labradors.
Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que j'en sais? Les goûts et les couleurs, Myriam.
Très bien, très bien.
Myriam. Direct Myriam, hein, ça
fait 3 minutes qu'on est là.
Waouh, direct.
Bonne ambiance. Moi, j'étais là, Kalindi, ça me manque de faire l'MK avec toi, je suis trop contente et tout, mais bon.
On l'a fait il y a littéralement 2 semaines.
Oui, bah ça m'a manqué quand même.
Bon, eh bien, je vous propose de passer aux commentaires si vous avez fini de parler des chiens. De moi.
Pitié. On pourra mettre dans les notes de ce podcast... Un jour, on a fait tous les chiens qui ressemblent à...
Ah oui.
Aux gens de l'équipe.
Oui.
Et vraiment, mais c'est 100% top. Quoi? Par exemple, Queen Camille, c'est vraiment un lévrier afghan avec une casquette. Je l'ai trouvé, genre.
Ouf.
Je l'ai trouvé et c'est vraiment genre...
Vraiment?
Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment, chacune de nous, presque, a des chiens. On peut les mettre dans les notes du podcast. C'est du GG.
Ouais, alors oui. Oui, ça va me faire un peu de travail, mais...
Mais non, c'est un article. Tu le mets, non?
Non, il n'y a pas d'article.
Ah non, il n'y a pas d'article. Je peux faire un article, ces chiens qui ressemblent aux meufs de la rédac. Ces grosses chiennes.
Je suis pas sûre.
Les grosses chiennes qui ressemblent aux meufs de la rédac.
Ça, j'aime bien. C'est marrant.
Les grosses chiennes.
Merci beaucoup. Bah, en tout cas, j'ai hâte de voir cet article. Sinon, on vous mettra les liens correspondant à chaque meuf de la rédac.
Tu peux limiter ça aux meufs qui ont fait LMK, tu vois.
Oui, voilà, on va faire ça. On va faire
sinon, mais juste Queen Camille, c'est vraiment le plus drôle. Genre.
Ok, allez, on part sur juste Queen Camille. Et moi, du coup, je suis un collé 3 couleurs.
Ouais, ouais. En fait, c'est. Ouais.
Toi, alors, moi, c'était moi qui l'avais trouvé. C'était un chien.
façon, moi, c'est toujours les pires trucs.
C'est quoi, toi? C'est un chien un peu dégarni, sauf sur le haut.
Et qui ça, tirait... c'est Fabrice, ouais, je t'ai sérieux ou quoi?
Bisous, Fab Flo.
Et il tirait la langue d'un côté, genre comme ça. Mais... comme Eureka dans un zirgouflex.
C'est reparti, putain.
D'accord. Parce que Kalindi fait très bien Eureka dans La Petite Sirène. Et il y a une scène, en fait, dans La Petite Sirène où y a elle va voir Eureka.
C'est un albatros.
je
précise quand même pour que les gens comprennent le lien entre
c'est pas le prince, quoi. C'est, si vous avez oublié les noms à La Petite Sirène, c'est pas
bah,
le...
voilà, c'est celui qui est bien dégueulasse, quoi. C'est moi.
Et les zinzins, parce que du coup, elle va le voir pour lui demander ce que sont les objets qu'elle a trouvés dans le fond de la mer et qui appartiennent aux humains. Et il voit une fourche.
Ça va être long, cette intro, Martina.
Il voit une fourche et il dit...
Un zigouflex.
Et après, elle tire la langue.
Bien sûr, bah oui.
Oui, c'est...
Du coup, on vous mettra aussi le chien qu'elle nous dit dans les notes de ce podcast, bien évidemment. Ce serait dommage qu'il n'y en ait que pour une Camille.
Alors que moi, je sais très bien que je suis un chien loup noir, donc... Et mon rêve?
Non, mais on dirait les gars qui font moi, j'ai fait un voyage initiatique, j'ai trouvé mon animal totem.
Non, mais moi, c'est pas ça.
Un loup. Et je suis là, yes. C'est marrant, c'est jamais un gecko, ouais, ton animal totem. Quoi. C'est jamais un gendarme, là, l'insecte nul qui se
trouve. Ah ouais, le gendarme.
Tu penses à ça?
C'est tout... Bah, t'es pas censé penser à ton animal totem, il est censé exister, mm-hmm, tu vois, genre dans ton cœur et dans un autre spectre. Mais c'est toujours des animaux cool.
Mais qui serait un gendarme?
Bah, un gendarme.
Ah ouais.
Tout simplement. Tu es gendarme, tu seras un gendarme, du coup.
C'est un choix de vie, hein, Martino.
Moi, je voulais juste dire que non, moi, je sais que mon chien, c'est un chien loup noir, que j'achète un sidecar juste pour mettre mon chien... C'est mon projet de vie dans 10 ans. Hein. Oh, j'achète un sidecar pour mettre mon chien loup noir dans mon sidecar.
Ton sidecar où t'as pas le permis?
Mais je l'aurai dans 10 ans, Martino, ah ouais, okay, donc merci.
Et, il y a un rétro-planning, t'inquiète.
Et après, je vais en teuf, et genre, il y a des hommes qui m'approchent, et après, je fais... Et là, il y a mon chien qui arrive, chien loup. Il a... Qu'est-ce que, tu vois, il commence à lui hurler dessus.
Ah, ton chien, il va dans la teuf.
Ouais,
est-ce qu'il a des boules caisses?
Oui, il a un petit casque à chien.
Très bien.
Et
t'as ta réponse à tout, c'est ouf.
Et quand je suis dans la rue, tu vois, je fais au pied. Et donc, ou peut-être en anglais ou en allemand, je verrai. Quel
en allemand, c'est bien.
Et genre, il vient,
comment
tu vois.
Comment tu dis au pied en allemand?
Attends deux secondes. Il vient.
Attends, tu toi.
J'imagine qu'on dirait un truc genre Auffussen.
Ouais. Mm.
Et donc, le chien...
pas vérifié, donc.
La chambre, quand même, hein.
Le chien vient et genre après tu vois genre, en fait mon chien a les poils luisants et longs et en fait tous les deux mois j'aurai les cheveux très longs comme ça, on marchera tous les deux côte à côte et les gens seront là non mais stop, genre trop de classe dans ce binôme.
Comment voilà. Les sont dalmatiens, tu sais quand au tout début il y a les couples et tout et je trouve ça trop mims
de grave,
le chien
d'accord.
Qui ressemble à son maître, etc. Voilà.
Bah envoyez des dessins, des fanarts hein, de Kalindi
s'il vous plaît, faites juste un monte. Ah ouais, franchement c'est mon rêve, donc mettez-le dans un sidecar, pitié.
OK.
Et voilà. Ben, vous avez une mission de plus.
Je tellement pécho dans ma vie grâce à ce chien. Ouais, et vous serez bien niqué, voilà.
Ouais, ouais.
Sans
ouais,
vos chiens. Ouais. Avec vos gros chats qui bougent pas leur cul dans leur litière.
Pardon.
Les commentaires, Alex Martino.
Ouais, les commentaires. Les commentaires. Est-ce que vous en avez ou est-ce que j'enchaîne sur le mien?
Moi j'en ai un.
Ah, vas-y.
Alors moi j'en ai un. La dernière fois j'ai parlé d'un livre qui était La vérité sur l'affaire Arik Ebert. On a débattu longuement sur les bonnes histoires thrillers qui font des twists à la fin. Et on m'en a recommandé un. Donc c'est Fiona qui me l'a recommandé, qui me parle de Les nymphéas noirs de Michel Bussy. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Non.
Joli titre.
Elle m'a dit que c'est top 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 et c'est le genre de livre où tu comprends absolument tout 5 pages seulement avant la fin.
Ah, j'aime trop.
Ah. Donc,
on m'avait dit ça pour un film, mais c'était un mensonge. On m'avait dit ça pour le film Enemy de Denis Villeneuve avec Jake Gyllenhaal.
En fait, t'as jamais
rien dit. T'inquiète, à la fin, tout prend sens. Et j'avais forcé, du coup, je devais faire une soirée avec des potes. Et enfin, on devait regarder un film. Et j'étais là, est-ce qu'on peut regarder Enemy et tout? Il paraît que c'est ouf. Moi, j'aime trop les histoires où tu comprends tout que à la fin.
Ouf.
Et du coup, mes potes, ils m'ont suivi dans mon délire. Et le générique de fin a commencé. On était là.
Il y a
une scène post-générique où on comprend tout. Il y a pas
j'ai pas eu là.
Il y a eu un moment d'épiphanie pour personne. D'accord. Voilà, du coup je crois qu'il est bien mais je sais pas.
Oh là 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 là. Eh bien merci Marie pour ce commentaire.
De rien.
Merci d'avoir fait tes leçons. Puis-je en dire de même de mes deux autres intervenantes?
Oui, j'ai des commentaires, Martino.
Ah.
Alors, je ne vais citer personne en particulier parce que c'est des commentaires que plusieurs personnes m'ont envoyé la même chose, donc je ne veux pas faire
bien
de
sûr.
Préférence.
D'accord.
Le premier qui est revenu beaucoup, c'est que j'ai dit que le couscous merguez, c'était algérien et pas marocain, parce qu'on parlait des spécialités régionales. Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes sont venus me dire « Alors, C'est pas du tout algérien, le couscous merguez. Genre, même pour les Algériens, c'est un peu chelou. C'est un truc probablement qui a été francisé. Enfin, ça se fait en France. Mais on trouvera peu de couscous merguez en Algérie. C'est un peu comme les brochettes bœuf fromage. Ce n'est pas vraiment japonais.
C'est voilà. Comme le poulet tikka masala qui est une invention londonienne.
Incroyable. Mmh. Vous êtes un puits de science, Alex Martin.
Oui, tout à fait.
Donc ça, j'ai bien noté. Désolée pour mes voisins et voisines algériens, car je n'y suis jamais allée finalement. Je n'aurais pas pu savoir. J'aurais pu chercher. Mais c'était une digression. Je ne savais pas qu'on allait en parler.
Bref.
J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit merci parce qu'ils sont allés voir la chaîne de Loris Giuliano et ils ont bien veillé. Donc ça me fait plaisir de partager des trucs marrants. Donc cool, on aime Loris. Et j'ai eu au moins deux personnes qui m'ont envoyé la recette des spätzle fait maison. Oh. Car apparemment, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc je tenterai l'expérience cet automne-hiver et je vous dirai.
Voilà. Bah dis donc, t'es qui
à la rédac, fait, ouais. À la rédac, ouais. Je vais le tenter chez moi déjà. Comme ça, si c'est la honte, c'est que moi qui mange un repas triste. Et si ça marche, je vous en ferai à la rédac. Ah,
ouais. Trop ouais. Bien, miam.
Miam, miam. Trop bon.
Une grande poêlée pour 15 personnes, yes. Ça va le faire.
Et toi, Kalindi ?
Ouais, moi, en fait, mon téléphone, il est en train de charger là-bas, donc...
La meuf...
Toujours les meilleures excuses. De... Vraiment.
En fait, mon chien noir à poil long a mangé mes commentaires.
C'est un peu chaud.
Moi, j'ai un commentaire de Noémie GKL sur Apple Podcast avec...
5 étoiles.
Merci Mimi de suivre ce podcast depuis 110 épisodes. Hello la team, première fois que je prends la parole depuis 2 ans que j'écoute le podcast. Il était temps. Simplement pour vous dire que le LM Calon, c'est la vie et que c'est ce qui fait aussi le charme du podcast, donc il ne faut pas l'oublier. Après, même si les épisodes sont un peu plus courts, ça ne m'empêchera pas d'écouter et de kiffer avec vous. Continuez à être zinzou. Bisous.
Oh, c'est gentil.
On va continuer
oui,
à être zinzou.
On va continuer à être très zinzou, même si
c'est juste que 2 kiffs par semaine, toutes les semaines, c'est trop.
Voilà.
Mais oui, on va gagner en intensité, ce sera le kiff de la semaine.
Oh,
on va
être comme des ouf. Il faut choisir, là, tu vois.
Ouais, ça va être plus dur.
Et j'étais pas bien tout à l'heure quand tu m'as dit non, c'est que 1 kiff.
Ouais,
t'as vu.
Waouh.
Mais en fait, faut qu'on se dise que la liste, on les fera après, quoi, tu sais.
Bah oui.
Oui.
Mais quand t'es enthousiaste, t'as envie de dire tout de suite.
C'est grave, bon, c'est pas grave.
On dirait vraiment ma daronne au marché qui parle avec une random qu'elle connaît pas, genre. Mais c'est ça, des fois, on a envie de faire tout de suite et puis on peut garder pour plus tard en même temps. Mais c'est vrai, quand on le voit, on a envie d'y aller, quoi. Bisous, maman, je t'aime. Mais tu vois, parce que je t'aime autant que ma mère.
Ouais, c'est ça.
J'ai aussi pour vous, comme vous les aimez beaucoup, une anecdote de star.
Ah!
Alors, c'est Maeva Magdalena qui nous a fait un 3 en 1 sur Apple Podcast avec
5 étoiles.
Merci.
Jingle.
Donc, c'est une vite bolos, une anecbof de star et un commentaire en 3
incroyable.
En 1.
Incroyable, trop bien.
Coucou LMK, je suis actuellement dans mon lit en écoutant le dernier podcast avec Mimi qui traite Kalindi de chagasse.
Je vois pas du tout de quoi elle parle, ça m'arrive
de
jamais.
Chagasse qui trébuche, j'ai beaucoup ri. Vous enjolivez mon confinement.
Attends, je t'ai traité de chagasse qui trébuche. J'ai aucun souci.
Même moi qui monte ce podcast, je les écoute quand même 2 fois, 3 fois.
Je me ça trouve que c'est un très vieux genre.
Ah, c'est possible.
C'est possible. C'est possible.
Parce que j'ai pas trébuché récemment.
Des chagasses qui trébuche. Ah, mais si ! C'était devant Mathieu Amalric.
Ah !
Tout se tient.
Si.
Voilà.
Vous enjolivez mon confinement. J'ai le Covid, yes. Il n'y a aucun fil conducteur.
C'est vrai qu'il y a peu de fil conducteur dans ce commentaire.
Ensuite, anecbof, au collège, le surveillant a dit qu'il est... Donc là, c'est pas une anecbof, c'est plutôt une vie de bolos. Ensuite, un jour au collège, le surveillant a dit « Qui est collé ?» Et j'ai levé la main parce que j'ai l'habitude quand on prononce mal mon nom. Qui est collé ?
Ah. Oh. C'est mignon ça.
Voilà.
C'est mignon.
Et voilà, c'était très honteux. Et les anecdotes de stars. J'ai vu Laurie au cirque et Cyril Lignac à côté de mon école. C'était long. Désolé, gros bisous.
C'était parfait comme commentaire.
Parfait.
Faut arrêter de s'excuser quand on
ouais,
fait des trucs parfaits
c'est
comme
clair.
Ça.
C'est très bien.
Tout y est.
Puis Laurie, là, on est quand même
un peu nul. Des anecdotes de stars très très bof.
Ah ouais, non, c'est mais génial. C'était top. Voilà.
On devrait faire les anecdotes nulles de stars plutôt, franchement, parce que on est même plus dans le bof là.
On va d'accord.
Non mais c'est
de la merde.
Non mais comme moi, mes anecdotes de star. Mais c'est vrai que ça fait quelques épisodes qu'on est sur.
Kalindi, tu sors.
C'est pris pour Cyril Hanouna, genre.
On va dire qu'on va éventuellement privilégier les anecdotes de star où il y a un minimum d'interaction avec la star en question.
Ouais, voilà.
Ah bon. Non, mais il y aura plus personne.
Mais non, mais c'est drôle quand même. J'ai vu Laurie au cirque.
Ça peut être une interaction dans ta tête.
J'ai vu Laurie au cirque. C'est drôle quand même, tu vois.
Bah, je sais pas, ça dépend. Est-ce que Laurie faisait le cirque, ouais. Tu vois, il manque de contexte. Est-ce qu'elle était dans le public au cirque? Est-ce qu'elle était sur un éléphant? Est-ce qu'elle a sauté dans un cerceau en feu? Je ne sais pas.
Contextualisez un peu vos anecdotes de stars. Moi, si vous voulez, j'en ai une là pour rattraper.
Mais c'était super quand même.
Mais il y en a une qui est un peu plus contextualisée, qui est Pauline, qui l'a envoyée à Laisse-moi kiffer. Salut Alix. Voici mon anecdote avec une star bof. Il y a quelques années, c'est le double bof. Il y a quelques années, je vivais à Budapest. Je suis allée avec une copine dans les bains célèbres là-bas. J'étais perdue dans le labyrinthe des vestiaires à la recherche de ma copine et j'ai senti des yeux sur moi. Je me retourne et là, je vois Pierre Cross et sa copine. J'ai complètement bugué et ils ont bien vu que je les avais reconnus. Imagine-toi la scène de moi à moitié à poil en maillot de bain face au gars qui fait les vidéos que je regarde religieusement pour mon caca du matin. Alors j'ai dit mot pour mot: bonjour, vous êtes ici pour le festival de musique? Non, on est en vacances. Ok, bonnes vacances alors.
Ça c'est bof, ça c'est vraiment médiocre, ouais, c'est incroyable.
Et
c'est
je me suis barrée en courant, si gênant de me retrouver dans le même bain que 10 minutes après.
Oh my god.
Et elle rajoute quand même: pour info, il est très grand.
Merci de l'info, merci de la vérification journalistique.
Voilà, voilà. Ça c'est une super anecdote de star aussi.
Exemple.
Je suis contente parce que ça fait vraiment très peu de temps que je sais qui est Pierre Cross, donc.
Je sais pas. Je l'ai pas dit, mais je sais pas.
Tu sais pas?
Je sais que c'est un mec qui fait des vidéos, mais alors à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il fait?
Ah si, moi je vois.
C'est comme comment il s'appelle, merde.
Elle est balancée au nom de youtubeur raté.
Non mais le gars qui avait fait un putain, comment il s'appelle, le gars qui avait fait un clip avec Squeezie là. Bon, tant pis. Freddy Gladieux. Je sais toujours pas vraiment ce qu'il fait, Freddy Gladieux, dans la vie, tu vois. Je sais qu'il fait des vidéos, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, je sais pas.
Ah ouais.
Voilà. Pourtant, je sais qu'il est quand même très connu.
Moi, l'autre jour, je l'ai vu faire une vidéo où, genre, ils doivent faire des blagues, tu sais, ne pas rigoler.
Ah oui, mais c'est vieux.
Bah oui, c'est très vieux. En même temps, je regarde un très vieux YouTube.
Ok, eh ben super, merci Kalindi.
Il y a une forme d'hostilité dans ce podcast du kiff là, c'est waouh.
Qu'est-ce qui se passe?
Bravo Kalindi pour ton expression, c'était super vraiment. Continue à t'exprimer dans ce podcast. Eh bien, il y a notre troisième segment de l'introduction.
Et après, nous pourrons commencer.
Ça fait 27 minutes qu'on est là.
17. C'est LMK Rock.
Ouais.
Le segment des dédicaces. On écoute tout de suite la dédicace de Gaëlle.
Oui, alors je voudrais faire une dédicace à Antoine, mon chéri. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on est ensemble. Et entre les verres sans culotte, les virées à droite à gauche en Belgique et maintenant notre voyage en camion, j'ai hâte de sillonner les routes avec toi et d'être au fin fond de la Roumanie si on arrive à passer tous ces barrages. Voilà, je t'embrasse fort fort et merci à l'équipe d'LNK. On vous écoute en camion et on kiffe de ouf. Donc voilà, merci, bisous.
Oh,
très sympa.
Super, il nous écoute donc du camion. Donc bisous, bisous, bisous à vous deux. Et bien du coup, voilà, bah ça y est, on peut passer au kiff, au cœur de cette émission.
Mais oui, finalement.
C'est super.
Et Mimi, est-ce que tu commencerais pas avec ton kiff de la semaine ?
Allez, d'accord. Je vais commencer avec mon kiff qui a choqué Alix quand je lui ai dit. Ça me choque un petit peu aussi d'en faire un kiff, mais au final, je me suis dit, why not? Mon kiff, c'est la série Family Business sur Netflix, dont je viens de regarder la saison 2. Ouais. Et alors, c'est pas ma série préf du monde, mais en même temps, voilà, je me disais
c'est
qu'elle
pas
mérite
un kiff.
J'ai quand même tout bingé, donc bon. Pour faire le rappel, Family Business, ça a commencé l'année dernière, donc en 2019. C'est une série de Igor Goltzman avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon, etc. Bah parce que je suis nulle en nom.
Liliane, pour citer une femme,
Liliane
par exemple, pour Mademoiselle.
Oh bah citer les femmes, je ne connais pas les noms.
Liliane Rovert, celle qui joue dans 10%.
Ah oui. Oui, ah, on l'adore. Qu'est-ce qu'on l'aime.
Avec Jean Gabin.
Elle est morte.
Oui. Mais quoi?
Elle est morte.
Ah, j'ai entendu, elle est morte.
Moi aussi, j'ai entendu, elle est morte. J'ai loupé l'info.
C'est une personne âgée dont on parle, donc ce serait pas complètement déconnant. Elle est très marrante.
C'est vrai.
Et du coup, Family Business, le pitch qui était quand même bien tentant à l'époque où la série a été annoncée, c'est que donc Jonathan Cohen, il joue Joseph, son daron est joué par Gérard Darmon, il s'appelle Gérard, et son daron, il a une boucherie, c'est la boucherie familiale où Joseph travaille parce que bon, c'est un peu un loser, il a la trentaine, il a pas trop d'avenir et il bosse à la boucherie et il a toujours des idées de business qui se cassent la gueule. Et il apprend un jour par une meuf un peu zinzin qui connaît, je crois, de la fac. Cette meuf, son père est haut placé et va devenir ministre de la Santé. Et elle lui dit, bah tu sais, moi, mon père, il va être ministre et il va régulariser le cannabis. Donc dans 3 mois, c'est légalisé en France. Et du coup, il se dit, il faut se positionner maintenant, comme ça, quand c'est légalisé, on va avoir v'là la moula. Et donc, il décide, sans trop l'accord de son daron, de transformer la boucherie familiale en bûcherie et de lancer toute sa famille dans la production de cannabis, qui, à la base, était censée être légale. Après, est-ce que ça va être légalisé ou pas ? Vous le saurez dans la saison 1, mais en tout cas, c'est plein de rebondissements. Et donc, la saison 2 est sortie il y a quelques semaines. Et en fait, j'avais tout regardé la saison 1 quand elle est sortie. C'est pas très long, c'est genre 6 épisodes d'une demi-heure. Ouais. Et j'avais trouvé ça, voilà, franchement, pas la meilleure série de l'année, mais déjà, en termes de série française, quand même très en haut du panier, et bah, plutôt cool, plutôt original, bien joué et tout. Et j'avais un peu oublié, et là, en fait, j'ai regardé avec mon mec, j'étais là, bon, on savait pas trop quoi regarder. Je lui ai dit, bah, si tu veux, on peut regarder Family Business, ça devrait te plaire, et parce que on voulait... Du coup, l'origin story, c'est que... Ouais, si, je vais le dire. On voulait regarder Brutus versus César, sur, qui est un film Amazon Prime de Kéron. Et donc je regarde, enfin mon mec il est toujours très très long à décider ce qu'il veut regarder, genre vraiment il est là, tu veux qu'on regarde un truc, je suis là ok, donc je vais devoir faire 5 propositions, ensuite on va écrémer, ensuite on va probablement faire un top 2, choisir un top 1 et changer complètement et partir sur un truc qui n'était pas du tout dans les premières propositions, c'est très laborieux, donc je sais que c'est laborieux à chaque fois, donc je lui ai dit bah voilà il y a Brutus versus César, c'est un film prime, par Kéron, avec machin, machin, machin. Et dans la liste, il y avait Gérard Darmon qui joue dedans. Et il me dit, oh, il y a Gérard Darmon. Bah, dis pas plus, j'adore Gérard Darmon, on regarde. C'était horrible. C'était nul à chier. Oh mon Dieu. C'est raté. On a tenu vraiment 3 minutes. Ah, en 3 minutes, on était là. Ça va pas devenir bien. C'est mal joué, c'est mal écrit. On a été voir les critiques. C'était horrible. Oh. Mais les critiques presse, c'est un truc genre fiasco intégral. Enfin, voilà. Désolé, le film est raté.
Trop dommage parce qu'il réalise bien Kéron d'habitude, en plus.
Ouais. Mais oui, ça avait l'air bien. Franchement, moi, j'étais chaude pour le voir. Mmh. Ça avait l'air d'être un peu Kéron fait son mission Cléopâtre. Tu vois, je suis sur le principe hyper chaude. Et vraiment, 3 scènes d'intro des personnages avec 1000 vannes et tout. Et on était en poker face total de, tu sais, ce moment où t'es tous les deux en train de te dire c'est de la merde, mais t'oses pas.
Ouais.
Tu veux pas forcément être la première personne. Ouais. Du coup, j'ai fini par dire c'est pas bien, je crois. Il a fait non, c'est pas, je crois que ça va devenir mieux. Je crois pas. Et du coup, je lui ai dit, bah, si t'as mis Gérard Darmon, il y a Family Business avec Gérard Darmon. Et c'est en gros une famille juive qui tient une boucherie qui décide de se lancer dans la beuh. Il a dit yes, let's fucking go. Et du coup, j'ai revu la saison 1 et on a enchaîné direct. On a bingé la saison 1 en un soir parce qu'au final, ça se
fait. Oui, ça dure 3 heures.
Ouais, voilà. Et on a regardé toute la saison 2 et en vrai, bah, c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de trucs où il faut beaucoup suspendre sa crédulité parce que voilà, c'est
bien
un peu comme devant Ozark ou Breaking Bad. En vrai, dans la vraie vie, les gars, ils tiennent 2 semaines et après, la brigade des stupes, elle est là. Bah, c'est pas votre métier, vous le faites pas bien, donc on vous a chopé, tu vois, c'est la vie. En plus, il y a plein de rebondissements, genre, ils font pousser la beuh dans leur ferme à la campagne et il y a une caserne de gendarmes qui s'installe littéralement derrière chez eux, donc ils viennent tout le temps chez eux et tout. Enfin, c'est plein de rebondissements et de situations cocasses. Donc voilà, il faut suspendre un peu sa crédulité parce qu'il faut bien que ça tienne plusieurs épisodes. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices cool. Mmh. Je trouve surtout que c'est très bien joué et que les dialogues sont vraiment cool par rapport à, pour moi, c'est un peu là où pêchent les séries et le cinéma français, c'est que les dialogues sont très, enfin, les gens ne parlent pas comme ça dans la vie, quoi. Il y a un côté très théâtre. Et en fait, bah là, pas du tout. C'est vraiment... quand je les vois, je me dis, ouais, ok, si j'étais avec mes sœurs en train d'essayer de faire pousser de la weed et de m'embrouiller parce qu'en fait, la weed, ça marche pas ou que c'est pas légal ou qu'il y a des flics ou quoi, on se parlerait comme ça, en fait. On se parlerait mal et ils parlent comme on parle dans la vraie vie.
ils se parlent mal, en fait.
Mais ouais, mais ils se parlent hyper mal et en même temps, c'est normal. Parce que dans la vie, on parle pas comme au théâtre, quoi. Et je sais pas, je trouve que c'est quand même rafraîchissant. La saison 1 finissait sur un cliffhanger, la saison 2 aussi. Et du coup, bah, je me suis retrouvée à vraiment me dire, putain, j'ai hâte de la saison 3.
Mais c'est marrant parce que moi, c'est ma petite revanche personnelle, ce kiff. Parce qu'il y a un an...
voilà. Tu me dis ça, j'ai l'impression que je vais me faire engueuler.
T'es ouf.
Il y a un an, j'ai regardé Family Business avant tout le monde parce que je devais faire un junket avec Gérard Darmon, Jonathan Cohen, Julia Piaton et Liliane Rover.
Donc une interview.
Voilà. Donc je vous mettrai en lien de ce podcast mon interview. Et du coup, j'avais dû regarder la série et j'en avais fait un papier en disant que c'était super et tout, que j'avais trop rigolé et tout le monde m'avait défoncé en me disant non Alix, il y a que toi qui trouves ça drôle vraiment et tout, j'étais là
je suis désolée si je t'avais défoncé à l'époque, je
pense ouais, que tout le monde était là,
mais je pense que...
moi je me suis arrêtée à l'épisode 2 parce que je trouvais ça poussif du cul à crever et mais genre
poussif du cul à crever
jamais dans l'excès.
En fait, moi ce qui m'avait choqué, c'était que dans le premier épisode t'as toute une phase, je crois que t'as un enterrement, je me souviens plus bien des bails,
non mais sa mère elle est morte,
mais oui, mais en fait je trouve que tout ça, c'est, vas-y, commencez par le sujet, en fait, tu vois. Je trouve que c'était...
Ah, mais ça commence pas par l'enterrement.
ça commence par il va faire une présentation.
Ouais, il va faire une présentation. Ouais,
il va rater sa presse de son appli de merde là.
Pour montrer que c'est un loser, machin. Ouais. En fait, je trouvais que c'était vraiment tellement poussif. J'étais là, vraiment, commencer par le début de t'as l'idée, on le fait tout de suite, tu vois. Et
alors, ça s'appelle une introduction. Dans un scénario, souvent, tu poses les personnages
ouais,
et la situation.
Ouais, d'accord, mais pas dans un truc avant de 6 épisodes de 30 minutes, tu vois.
Mais il arrive dans l'épisode 1, le bail de la
à la fin de l'épisode 1. L'épisode 2, tu commences à rentrer dans le vif du sujet et j'étais là.
La meuf m'engueule.
Il reste 5 épisodes, il reste 4 épisodes, tu vois. Donc, quid.
Et ben, il s'en passe des choses. Et limite, dans la saison 2, il y avait des épisodes où il se passait trop de trucs dans un épisode.
Moi, c'est exactement ce que j'ai retrouvé.
40 minutes. Et des fois, on était là. Attends, il vient de se passer. Genre, le scénario, il s'est retourné 3 fois dans un épisode. Ça faisait un peu beaucoup, mais bon, ça fait partie des trucs où t'es obligé de...
Bah, je pense qu'ils ont appris de cet échec du début de la saison 1 où les gens ont dû en masse leur dire...
Voilà, ils ont écouté, ils se sont dit, putain, Kalindi, elle a dit ça, c'est vrai qu'on a mis 2 épisodes à arriver à la 8, donc là...
Moi, j'ai rien dit quand je regarde pas, donc j'ai fermé ma gueule.
Mais en fait, je trouvais que justement, la saison 2 que j'ai regardée aussi, moi, ça m'a un peu plus lassée, justement, ce truc de introduction... problème, résolution du problème en fin d'épisode, introduction du nouveau problème en cliffhanger, et tu recommences, tu vois, et du coup j'étais là oui, c'est, enfin, ça reste zinzin et ça reste drôle, tu vois, mais il y a un truc de rengaine, de ritournelle qui est un peu lassant parfois.
Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait d'habitude moi je suis vraiment en mode, ce qui me drive ça va être une bonne histoire, et du coup si les persos sont pas top et tout, c'est pas très grave. Là c'est un peu l'inverse, l'histoire est pas dingue. Mais pour une fois, c'est assez rare. En fait, comme je me suis attachée au perso, bah, je savoure regarder, même si je crois pas à 100% à tout ce qui se passe en termes d'intrigue, parce que vraiment, ça part en couille.
Non, mais c'est pas possible.
Mais juste, j'aime bien les voir galérer, les voir s'en sortir et tout. Juste.
Mais il y a des grands méchants qui sont pas crédibles, par contre.
Non, pas du tout. Ouais, les antagonistes sont pas toujours dingues. Et en même temps, alors, c'est une autre culture, un autre pays, un autre contexte, mais vraiment, dans Breaking Bad, t'as des gars qui coupent la tête d'un indique, qui la collent sur une tortue, qui mettent la tortue dans le désert et qui font exploser la tortue. Enfin, c'est long, juste pour dire, on sait que t'es un indique, on t'a tué.
Mais en fait, je pense que...
les cartels, ils sont connus pour être très drama dans la vie.
Puis aussi, c'est un truc de...
Les cartels, c'est drama.
Les cartels, c'est que ce sera le titre de l'épisode. Les cartels, c'est un peu des dramas.
Trop drama, les cartels.
Non, mais ils en font toujours un peu trop, quoi. Et au lieu de juste tuer des gens, ils en font trop.
Mais oui, mais après, t'as aussi cet exotisme de te dire, ça se passe loin de chez toi, tu vois, dans des pays que tu connais pas trop. En France, tu sais, tu fous pas ça sur... Non, mais pas que tu connais pas trop. Oh putain, j'ai encore dit des conneries.
Mais non, t'as pas dit des conneries. Personnellement, je connais très mal le Nouveau-Mexique et le Mexique tout court.
Oui, enfin voilà, moi j'y suis jamais allée.
T'as qu'à savoir que les cartels sont très drama, Mimi, c'est tout.
Non, mais j'y suis jamais allée et je connais pas les cartels de la drogue là-bas. En France, je connais un peu des cartels.
Et à Miami aussi. Quand
et
même.
À Miami, bien
Alors,
sûr.
Alors, vous la voyez pas, mais elle a un col roulé avec une grosse chaîne en or posée dessus.
Et une coiffure.
Elle est en full bling.
Ouais, d'ouf.
C'est l'argent de la drogue, ça. Hein.
C'est l'argent de la drogue. J'ai beaucoup de choses à moi qui viennent de l'argent de la drogue. Voilà. non, mais je sais pas. Oui, du coup, t'y crois moins parce que ça se passe aussi. Enfin, je sais pas. En France, je sais pas.
Ouais, mais c'est une comédie conne du cul, tu vois.
Oui, voilà.
C'est con, pas là pour la crédibilité,
c'est con.
Quoi.
C'est con. Voilà, c'est très con. Voilà.
Mais moi, franchement, en fait, j'avais tellement envie d'aimer parce que j'aime tellement les acteurs.
Ouais.
Ouais.
Je suis là. Bah ouais, c'est ça. J'étais là avant. Et
Ah ouais, t'as dit ça.
Mais j'ai envie de réessayer parce que je les kiffe tous, quoi. Voilà.
Ouais,
c'est ça, je pense.
Ils sont trop forts.
Un peu ses attentes et juste se dire, on va passer un bon moment avec des acteurs et actrices qu'on aime bien, une intrigue qui reste prenante même si pas très crédible, et une forme d'originalité quand même pour une série française qui a un ton qu'on voit pas trop. Enfin, je pense que le bon exemple c'est 10% quoi en termes de série française qui marche. Mais 10% c'est un peu classique, c'est une série qui passe à la télé et tout. Là, c'est Netflix, ça ose plus de choses en termes de langage et de vannes. Enfin, j'ai détesté parce que je déteste ça, mais dans la saison 2, il y a une vanne caca qui est longue, qui est vraiment très longue. Et moi, je ne peux pas les blagues caca. Et du coup, vraiment, j'étais dans mon canapé, j'ai mis un coussin devant ma tête. J'étais là, je vais attendre que ça passe.
Ça te fait cringer,
ouais.
Comme moi, les gens qui dansent.
Bah oui.
Oui.
Ah, moi, ça me
les gens qui dansent, mais c'est-à-dire quand
les
tu es en soirée, t'es pas bien.
Dans les
films, moi aussi. Oui, parce que je sais qu'il n'y a pas vraiment de musique pour les figurants. Et du coup, je me focalise sur eux et je les vois danser dans le vide sans musique. Et ça me met trop mal à l'aise.
Mais moi, c'est pas quand ils sont en soirée, c'est quand dans les films français, ça fait tout le temps ça. Et alors, celui qui adore, c'est Louis Garrel. Dans le film avec Goldshift et Farahani, il y a un moment donné dans un bar où elle se lève, elle commence à danser et je suis là.
Ah, mais personne fait ça dans la vie.
Et moi, je l'ai fait. Tous les réalisateurs français ont des scènes où il y a des meufs qui dansent. Non, mais c'est vraiment, c'est horrible. Moi, ça me, oh, mon cringeomètre est au max. Non, en fait, j'en ai trop marre de descendre mes attentes quand il s'agit de séries françaises, parce que même 10%, je suis désolée, je sais que tout le monde bande pour cette série. Moi, j'ai tout regardé aussi, mais je suis désolée, c'est quand même la moitié du temps jouer avec le trou du cul, quoi.
Non.
Donc, si, je suis désolée.
Fait, d'accord. En fait, j'aime bien.
Ah, c'est merci, addictif. Putain.
Mais bon, ouais. C'est pas tu dis pas putain il joue trop bien quoi, tu dis ouais c'est marrant, tu connais les acteurs donc ça te
ah ouais t'aimes pas Camille Cotin dans 10%?
Si, c'est la seule, désolée, mais c'est la seule qui joue vraiment bien.
Ouais, mais en même temps il y a plein de bonnes séries où je me dis pas, enfin américaines et tout, je me dis pas ouais il joue incroyablement,
oui,
bien,
voilà,
tu vois. Mais juste tu te poses pas la question de est-ce qu'il joue mal.
Ouais, c'est ça, c'est
exactement vrai. Parce que c'est des Américains.
Ouais. Mais en fait, c'est peut-être pas qu'il joue mal, c'est juste que c'est, en effet,
mais c'est la langue,
c'est tellement écrit.
Mais alors moi j'ai une théorie.
Okay. Okay, d'accord. Alors moi j'ai décidé il y a quelques années maintenant, ça fait depuis 2014 que le québécois, enfin que le québécois était la meilleure langue pour les films et les séries, parce qu'en fait il y a donc la langue française, par contre il y a toute la musicalité anglo-saxonne. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça marche trop bien, les dialogues en québécois.
C'est
enfin,
vrai.
Vous regarderez Mathias et Maxime de Xavier Dolan, qui fait vraiment, bon, qui écrit super bien aussi, tu vois. Mais vraiment, c'est des enchaînements de vannes et tout. Et je suis là, en français, avec l'accent français. Je suis pas sûre que ça passe, mais là, ça passe trop bien. Enfin, vraiment, le québécois, c'est le meilleur. Bon, je le dis à chaque fois, tu vois, mais c'est vraiment la meilleure chose. J'aurais rêvé être québécoise. Voilà.
Mais tu tiens un bon point.
Non, mais c'est vrai.
Peut-être que l'avenir de la série française, merci, est d'embaucher que des Québécois et les faire s'affaire en québécois. Putain.
Ouais, ouais. Et ben voilà, Family Business en québécois, c'est un projet à venir bientôt.
Comment on dit Family Business en québécois?
Bah, tu dis Family Business.
Non, mais d'accord, mais...
Je trouve une expression,
ah,
quoi.
Ah oui, tu veux la traduction? Bah ouais.
C'est le Québec qui a...
C'est les affaires de famille.
Ah oui.
Les affaires de la famille, ouais.
Je l'aime trop. La semaine dernière, au théâtre, elle a fait l'accent québécois dans notre cours de théâtre commun.
Est-ce que les gens étaient impressionnés?
Oh, les gens étaient impressionnés. Les gens lui ont dit à la fin.
Oui,
enfin, il y a une meuf en tout cas, qui est venue dire que c'était bien. Et moi, j'étais fière d'elle. J'étais là, elle a placé qu'elle était bonne en québécois.
Faut placer ses skills.
Bravo. Exactement. Martin. Je me suis dit, ça va me décrocher un rôle. Tu vois.
Bravo, Martin. Le rôle de ta vie.
Le rôle de la québécoise. C'est donc un rôle qui n'existe dans aucune pièce.
Dommage. Eh bien, c'est bien dommage. Les Québécois devraient avoir plus de rôles, dans plus de pièces, dans plus de films, dans plus de séries. Partout, il devrait y avoir que des Québécois. Voilà, c'est mon opinion.
Et ben voilà, comme ça c'est dit.
Très bien.
Ben, merci beaucoup, Mimi, pour ce kiff.
Ben de rien, je pensais pas qu'il allait poser des questions géopolitiques mondiales sur la place des Québécois, mais ça me ravit.
C'est à toi, Marie, de nous parler de ton kiff de la semaine.
Oui, mon kiff de la semaine, qui est du coup, axé déco.
C'est marrant. C'est marrant parce que t'es pas du tout en train de décorer un appart en ce moment, quoi.
Bah, pas du tout, non. Alors, pour la petite histoire, je suis dans un nouvel appartement depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. Et après une grosse période bien relou, bien chiante de travaux, on passe enfin à la partie la plus intéressante, la déco. Donc, je suis trop excitée. Voilà, je suis en train de meubler un peu mon appart. Et un truc assez naturel, en fait, que je fais et dont je suis trop contente, c'est d'aller chez Emmaüs et d'aller dans des brocantes pour meubler cet appartement. Même s'il y a quand même des choses que j'ai achetées neuves, typiquement le lit, parce que je voulais vraiment un coffre de lit pour ranger tout mon bordel, et le canapé, parce que c'est compliqué de trouver un canapé en bon état, etc.
Qui n'a pas de punaise de lit.
Qui n'a pas de punaise de lit et qui peut faire convertible et qui marche bien. C'est toujours intéressant.
Le nouveau single de Marie.
Par un chat et sur lequel personne n'a uriné. C'est beaucoup de critères.
C'est ça. Ouais, c'est quand même beaucoup. Donc du coup, pour un canapé, on se dit quand même, on va l'acheter.
Oh, j'ai une anecdote. J'ai une pote.
Maintenant, elle coupe les histoires
sur son canapé.
Non, une pote qui était dans un appart de location. Il y avait un canapé, tu vois, et elle l'a ouvert en canapé lit. Il y avait une capote à l'intérieur usagée. Voilà.
Moi, j'en ai retrouvé sous mon lit quand j'emmenais déjà dans mon appartement. Et sauf que je connais le gars qui était là avant moi. Il est venu prendre l'apéro et je lui ai dit, gars, on parle de tes capotes sous mon lit quand même ou
crade
ou quid?
C'est très crade. Bah du coup, c'est pas arrivé chez moi, ça, pour le coup. Et en fait, du coup, j'ai acheté pas mal de trucs chez Emmaüs et en brocante. Et en ce moment, en plus, c'est la meilleure période pour aller faire des brocantes. En fait, le mois de septembre, il y en a tous les week-ends. Bon, du coup, avec les nouvelles annonces du gouvernement, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce week-end, par exemple, c'était maintenu. Et en fait, je suis trop contente parce que, en fait, moi, j'ai toujours été chez Emmaüs depuis toute petite. Et ma mère, elle me trimbalait parce qu'à chaque fois, on trouvait des bons plans. Elle adore chiner, donc en fait, c'était un peu genre, classique shit d'aller chez Emmaüs. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai eu un peu honte de ça parce que c'était pas le truc que tu disais, hey, je vais chez Emmaüs chiner, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est un peu presque à la mode de le dire.
Oui, carrément.
C'est place to be, tu vois.
Chez les bobos du Paris 10 que nous sommes, oui, c'est oui. Vrai.
Et en fait, en gros, nous, on avait juste pas trop le choix, tu vois, il y a quelques années. Et on trouvait à chaque fois des trucs trop cool. Enfin, voilà, j'ai eu plein de jouets chez Emmaüs, des fringues, de la vaisselle, des meubles et tout. Et du coup, ma mère est venue il y a 2 semaines chez moi, du coup, dans mon nouvel appart. Et on s'est dit, bon, bah, on va faire classic shit, un tour chez Emmaüs. Et pas les Emmaüs qu'il y a dans Paris où c'est en général assez petit, où tu trouves que des bibelots ou des fringues et tout. On a vraiment été hors de Paris, où il y a vraiment des entrepôts énormes, où c'est des garages entiers remplis de meubles, donc des canapés, des commodes, des tables, des tables d'appoint, enfin vraiment tout. Et du coup, on a trouvé des pépites, enfin vraiment pour que dalle. Et j'ai trouvé notamment une commode qui était trop belle, mais un petit peu abîmée, un peu sale et tout. 10 balles, on l'a achetée. Et arrivé chez
moi. Ah, mais c'est toi ?
Oui, c'est moi.
Non, mais parce que moi, ce week-end, pareil, je suis allée chez Emmaüs, j'ai vu un meuble télé, une commode trop ouais. belle, un peu abîmée, mais trop stylée et tout. Et j'ai commencé à vouloir la payer. Il y a un mec qui m'est passé devant et qui l'a achetée. C'était ah, non, ton envoyé ?
Moi. Non, c'est pas moi. Désolée, parce que c'était il y a 10 jours, je pense.
Ah ouais.
Et
non.
Toi, t'étais pas en dehors de Paris ?
Si, je suis à Pantin.
Non, mais c'était à Amélie Plaisance.
Oui, non, j'étais pas.
Anyway. Et donc, du coup, on l'a ramené à la maison. Et vraiment, genre, un petit coup de polish. J'ai acheté un truc qui donne du nouvel éclat au bois et tout. Franchement.
Que t'as dû payer plus cher que le meuble.
Bah, franchement, ouais, je crois. Franchement, de ouf.
Bah oui, mais c'est 10 balles.
Ça
le
pourra
meuble.
Me permettre de rénover plusieurs
ouais,
meubles.
Ouais.
Et du coup, je suis trop contente parce que là, ça y est, l'appartement commence un peu à prendre vie. Et je me dis, bah, c'est cool parce que j'ai payé vraiment que dalle tout ça. À chaque fois, j'ai acheté des vases trop beaux, un peu art déco, genre vraiment 2 €. J'ai acheté des verres magnifiques, 2 €. Voilà, vraiment pas cher. Et en plus de ça, qui donne une seconde vie aux objets. Donc trop cool, tu vois, de me dire, en fait, ça appartenait à quelqu'un. Quelqu'un s'en est débarrassé parce que ça lui plaisait plus. Et bah, moi, du coup, ça va avoir une nouvelle vie à la maison. Et du coup, je sais pas, c'est trop cool. Et du coup, bah, j'ai fait plein de pépites comme ça. Là, je fais des brocantes à droite à gauche, etc. Et du coup, voilà, je suis trop contente de faire ça. Ça prend forme petit à petit.
C'est la meilleure chose.
Franchement, c'est trop bien.
Ça sera peut-être pas cette année, Covid oblige, mais tu sais que la brocante de Levallois est la plus grosse brocante d'Île-de-France.
C'est vrai ?
C'est la plus grosse.
Faut que j'emmène ma daronne.
C'est... Alors par contre c'est la guerre, mais bah c'est ouais. la guerre meuf.
Enfin, faut y aller
c'est pas la
heures.
Petite brocante sympathique. Elle ouais. dure une journée ou 2 jours, ouais. je sais plus. Mais faut y aller le matin, bah hyper ouais. tôt. Faut y aller avec tes valises et faut y aller en jouant des coudes parce qu'elles ne te font aucun cadeau les Levalloisiennes, aucun. Et
mais elles sont riches ouais.
Oui j'aime.
Non mais comme c'est la plus grosse ville de France, t'as plein de gens de plein de villes d'à côté, donc c'est vraiment donc la guerre absolue. Et mais c'est la plus grande et elle est extraordinaire.
Ah, c'est trop bien. Et du coup, ah non, tu sais pas quand c'est que c'est ?
C'est toujours fin septembre, début octobre.
Oh, d'accord.
Et en plus, il y a un stand de crêpes où ils font la confiture
ça,
myrtille maison.
D'accord. Mmh.
Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur la brocante de Levallois. J'y répondrai avec plaisir.
Nous ferons un communiqué de presse bientôt.
L'année prochaine, je participe normalement. Donc n'hésitez pas à venir. J'aurai une guirlande de guinguettes, sans doute. Je crierai comme ça.
Il y aura meilleure mère.
Oh bah, ma meilleure mère sera là pour me dire dégage, parce que ma mère, sa passion quand on fait la brocante ensemble, ouais. c'est de me faire dégager du truc pour vendre mes affaires au rabais. Ouais, voilà. Donc j'ai des trucs à 30 balles, elle les vend 2 €. Je suis là, bah super, tu vois.
Ah
vraiment.
Oui, c'est pas au rabais, c'est genre.
Elle les donne parce qu'en fait, elle veut juste s'en débarrasser, tu vois. Et.
Mais en même temps, est-ce que ces trucs sont stockés chez elle ?
Ah, ça décharge.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Oui, probablement. Certain.
D'ailleurs, j'ai un trauma de ça aussi parce que ma mère, elle a vendu ma PlayStation 2, qui était vraiment genre, tu sais, le modèle petit et tout, enfin vraiment une
PlayStation. La PS2 Slim.
Ouais, exactement.
Ouais.
En gros, elle était encore neuve, tu vois, elle était encore d'actualité et tout. Elle l'a vendue que dalle dans une brocante, mais genre, quand je dis que dalle, peut-être 20 balles, tu vois. Et quand c'était encore, bah, tu vois, à la mode.
Oh, elles sont trop chiantes, les darons.
Et franchement, mais je l'en veux toujours, hein. Et des fois, je lui sors ce pic-là en mode genre, ouais, t'as vendu ma PlayStation 2, tu vois. Alors que vraiment, en plus, je pourrais vraiment y jouer encore, tu vois. Bref.
Non, mais ça, voilà. C'est insupportable.
Est-ce que t'aurais ramené ta PS2 chez toi ?
Mais grave, bah là, je suis.
15 ans après ?
Mais grave, je te jure.
Ok.
Voilà. Même t'aurais pu, c'est un peu collector, non? Je sais pas, j'en sais rien.
Bah, okay, c'est trop
produit pour être collector.
Ouais, c'est vrai.
Sauf si tu l'as encore dans la boîte ou que tu l'as jamais touché, tu l'as jamais sorti et tout, mais ça vaut rien, enfin, ça vaut pas grand-chose une PlayStation. C'est trop récent et ils en ont produit tellement que c'est pas du tout rare, donc ça ne marche pas. Si tu l'as en couleur spéciale, peut-être.
Non, je l'ai pas en couleur spéciale. Moi, je suis un peu la meuf de, tu sais, la sobriété. Voilà.
T'es
dans
encore.
Voilà. Et y avait, je voulais rajouter un truc aussi, c'est que donc Emmaüs, c'est trop cool, mais en fait, il faut y aller quand même donc le matin tôt parce que c'est des arrivages toutes les semaines. Et donc, du coup, bah, ça part très vite. Les, tu vois, la commode que j'ai eue, si j'étais arrivée après 11h, bah, c'est mort, elle était vraiment foutue. Et en plus, souvent, il y a des brocanteurs pros qui passent chez Emmaüs parce que du coup, ils font des super affaires et après, eux, ils les retapent un peu, ils les revendent très cher dans des brocantes, du coup, de pros. C'est
ça qu'il faut faire dans la vie. Hein.
Ouais. Et du coup, ouais, c'est vraiment pas mal. Et par contre, du coup, je me suis un peu quand même renseignée sur... il doit bien avoir un site, tu vois, qui vend des objets de décoration de seconde main, mais en ligne. Et j'ai trouvé un site trop cool.
Selency.
Exactement, Selency. Je l'ai noté parce que j'arrivais pas à me retenir.
C'est ma passion. Et bah, franchement,
c'est
trop bien.
Du coup, Selency, c'est un peu comme un made.com ou... je sais pas, il y a quoi comme site de cave home, etc. En gros, c'est que de la déco, mais vintage, et du coup, de seconde main. Et du coup, c'est cool parce que tu peux choisir par région, par type de meubles que tu cherches et tout. Et t'as un peu un catalogue, ce que t'as pas du tout chez Emmaüs, où c'est vraiment, bah, t'arrives, tu fouilles, et puis des fois, tu pars, en fait, bredouille, quoi. Donc, Selencio.
Selency.
J'arrive pas.
C'est pas vachement plus cher. Il me semble que quand je cherchais des trucs de déco, j'avais demandé à Cal des adresses. Et du coup, pour de la seconde main, j'étais là.
C'est la seconde main. Il y a un marketing. Le mieux, c'est Emmaüs.
C'est pas une commode à 10 euros.
Non. Parce que du coup, elle est pas. T'as pas besoin de la retravailler. En fait, en général, quand tu l'achètes, ben, ils te la livrent. Enfin, elle est nif, quoi. Alors que chez Emmaüs, ben, tu sais que t'as peut-être un petit peu de
boulot à faire. Ouais.
Voilà. Moi, j'avais quand même trouvé un bar balinais à 80 euros, alors qu'il était à 400 balles sur tous les sites.
Oui.
Mais j'avais été le voir et en fait, il était trop gros. Ah. Et puis bon, en fait, j'étais obsédée pendant 3 mois à voir un bar dans mon salon.
Ah, mais je pense que t'en as largement parlé de la semaine.
Oui.
Je m'en rappelle pas.
Si. C'était vraiment une quête de chaque jour, quoi.
Ah oui.
Et
elle me le montrait toutes les 30 minutes. Tu veux voir mon bar balinais?
Je sais pas ce que c'est, un bar balinais en plus.
C'est un bar avec une espèce de paillote inspiration. Mais heureusement que j'ai pas acheté
dans
ça. Putain, je m'en serais lassée au bout de 3 jours. Enfin, vraiment, mais heureusement que j'ai pas acheté ça. Voilà.
Donc, je pense que t'as peut-être des bonnes occasions, mais il faut que tu fouilles, quoi.
Ouais.
Voilà.
Donc, mais le seul truc qui est un peu chiant sur Selency, c'est que, mais comme sur eBay et tout, les gens ils mettent pas à jour leurs annonces. Donc, moi, il y a plein de gens à qui j'ai écrit, c'était parti depuis des mois, tu vois. Je suis là, n'hésitez pas à juste enlever votre annonce, c'est chiant du cul, quoi.
Il y a aussi des comptes Instagram, là pareil, en ce moment, bah, je suis en pleine folie déco. Du coup, je suis aussi des comptes Instagram de gens qui chinent des objets, qui les retapent et qui les revendent. Donc, en fait, ça donne plein d'inspiration, mais en général, c'est quand même vachement cher. Enfin, des fois, je suis choquée, je vois des commodes que vraiment, typiquement la commode que j'ai achetée chez Emmaüs à 10 balles, les mecs, ils, pareil, ils ont mis un petit coup, boum, ils la vendent 150 euros. Je suis là, genre, ouais, fraté, ça va.
Wow. D'ailleurs, je vous conseille à Pantin, pas loin de chez Alix, il y a un truc qui s'appelle la Réserve des Arts, qui a été ouvert par une de mes amies. Et en fait, c'est des énormes entrepôts où tu peux aller choisir des matériaux, etc. Mais tu peux aussi prendre des cours là-bas de comment retaper tes meubles. Ils te filent tous les instruments, t'as pas besoin d'acheter des trucs. Tu sais quelle est ton idée, puis tu peux faire plein de trucs, genre des sacs à main. En bois mes couilles ou en bambou. Bon, moi je m'en bats les couilles,
en
tu vois.
En bois mes couilles.
Non, mais moi vraiment faire des trucs moi-même, déjà, dès que je. Enfin, vous vous rappelez, je vous avais dit, Ikea, je croyais que les gens ils venaient le faire chez toi. Donc, moi vraiment, c'est. C'est vraiment niveau zéro du bordel. Mais si vous êtes un peu bricoleur et que ça vous intéresse de donner une seconde vie vous-même à vos trucs, la Réserve des Arts Paris, il y en a un qui est ouvert par mon amie Louisanne, d'ailleurs, Louisanne, on t'embrasse, Louisanne Roy, à Marseille. N'hésitez pas à y aller parce que c'est difficile d'ouvrir un nouveau business.
Trop bien.
Allez-y.
Trop bien. Cool. J'irai faire un tour, en vrai.
À Marseille?
Non, à Pantin.
À Pantin.
Moins stylé.
Eh bien, merci beaucoup, Marie, pour ce kiff.
De rien.
Très, très cool. Kalindi, quel est le tien?
J'adore. Moi aussi, j'adore trop les meubles. Hein? C'est quoi?
C'est quoi ton kiff?
Moi, mon kiff...
Est-ce que tu vas le changer encore dernière minute?
Non, c'est celui, le dernier que tu as envoyé.
Ok.
C'est...
Donc, elle t'en a envoyé plusieurs. Quand même.
7.
Plus.
C'est reprendre les gens. Vraiment, je me suis...
La pire personne.
Non, mais en fait, je m'en étais pas rendu compte avant. En ce moment, je fréquente un garçon et avec qui j'ai une énorme...
Un garçon.
Oui, un garçon. Avec qui j'ai une grosse connivence intellectuelle. Et en fait, je me rends compte que dès que j'ai une vraie connivence avec quelqu'un, ben, ma passion, c'est juste de lui en mettre plein la gueule, quoi. Et
moi, tu me le fais aussi souvent.
Dire, du coup,
mais oui, bien sûr.
Ah, je suis contente.
Mais t'es quand même sympa avec moi, donc ça m'inquiète.
Toi, t'es ma boss, donc y a ce truc. La hiérarchie fait que, tu vois...
Il y a un côté obséquieux à tout ça.
Exactement. C'est ça. Et obséquieux, c'est exactement le mot. Et donc l'autre jour, samedi, là, je passe la journée avec lui, on va manger des trucs, et je lui dis, on passe devant un restaurant à ramen qui puait de ouf. Non, un resto à soupe, c'était pas des ramen qui puaient de ouf. Il fait, je lui dis, ah, ça pue. Il me fait, bah, t'aimes pas les ramen? Je lui dis, mais connard, ça sent pas les ramen, ça sent glutamate, va jamais au Japon. Bon, bref.
Il a pris si cher. Gratuitement.
Le podcast du kiff.
Mais connard, déjà, ça commence bien.
Et vraiment, il a rigolé, parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Et il a rigolé, il me dit, mais t'es vraiment la pire meuf, c'est-à-dire que t'es genre Hermione Granger, tu veux tout savoir, mais t'as pas la délicatesse d'être agréable, tu vois. Et en fait...
mais Hermione Granger n'est pas très agréable non plus. Hein.
Non, mais elle dit pas connard, tu
vois. Oui, elle dit, oui. Ouais, elle dit pas connard.
Elle dit pas connard.
Mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était faire ça, tu vois, puis par exemple, quand les gens bafouillent et tout, je redis le même truc, mais sans bafouiller, tu vois, ou en bafouillant plus, mais comme j'ai fait avec Alice la dernière fois.
C'est d'être la pire meuf.
Être une connasse.
Comme j'ai fait avec Alix la dernière fois, on dirait que tu le notes le soir, genre aujourd'hui j'ai repris Alix.
Bah presque. Et voilà, et en fait, tu vois, ça me procure du bonheur. Mais parce que pour mais non, mais parce que pour moi, c'est montrer de l'attention, c'est un peu, c'est ma manière de chérir les gens, tu vois, de juste les reprendre et de les taquiner. En fait, c'est comme je sais pas, j'ai pas eu petit frère, petite sœur, grand frère, grande sœur, ouais. J'ai pas eu ça, tu vois, dans mon entourage. Du coup, bah voilà, j'aime bien.
Je taquine.
Et voilà, reprendre les gens surtout sur leur orthographe. L'autre jour, je m'en suis un peu voulu.
mais t'aimes bien quand toi, on te reprend toi.
Mais moi, il y a peu de choses à reprendre en réalité.
Alors l'autre jour, je l'ai pas dit.
Un sup.
Mais t'as fait une faute dans ta story, ouais.
Ah ouais, dans mes stories, ça m'arrive souvent. Mais c'est bon, les stories, on va vite. Non, mais c'est vrai que dans les stories, j'en fais, mais ça m'arrive tout le temps d'en faire dans mes articles, tu vois. Mais juste, c'est vrai que quand les gens en font de manière... Si c'est une coquille, tu vois. L'autre jour, il y a un youtubeur que j'adore qui en a fait une et j'étais là.
Attends, il y a des youtubeurs que t'adores ?
Moi, ouais. J'aime pas être...
Okay. Oui, c'est toujours les mêmes youtubeurs, tu sais, cinéma ou des youtubeurs qui font des tier listes des régions françaises, par exemple, pour pas donner leur nom. C'est bon, c'est vraiment mon préf. Anyway, et qu'est-ce que j'étais en train de dire ?
Ah oui. Il a fait une faute.
Ah oui, et donc il avait fait une faute et je me suis dit, est-ce que tu le reprends et tu trouves un moyen marrant d'interagir avec cette personne ? Ça peut créer justement de la connivence. Après, j'étais là, non, vraiment, ça fait trop connasse ou fangirl. Enfin, je sais pas, tu vois, donc je l'ai pas fait. Mais à l'inverse, il y a des photographes que je suis qui font tout le temps des fautes d'orthographe à chaque putain de slide de story. Et je suis là, en vrai, faites-le relire par votre mère ou par vos copines, tu vois. En fait, c'est pas grave, tu vois, de juste vouloir progresser, de pas tout le temps. Non, mais c'est vrai,
dans
tu
la
vois, médicité, c'est chiant.
Je veux dire.
Les gens, ils ont 500 000 abonnés et en fait, et les participes passés non vraiment c'est horrible, je suis en train de m'enterrer vivante et infinitif ils font, enfin tu vois,
je
c'est,
me recouvre de
non
terre.
Mais c'est pas possible, t'as aussi une responsabilité je trouve qui est celle
de pas faire de fautes pour ta commu. Ils sont pas profs de français, ils sont photographes.
Mais même, tu vois, je sais pas, ça coûte, ça paye pas plus cher de juste essayer de faire en sorte de faire moins de fautes d'orthographe. Enfin, moi, ça me trigger, les fautes d'orthographe, voilà. Je sens que dans 5 minutes, on va me dire d'aller bosser chez Valeurs Actuelles.
Non, t'inquiète, moi aussi je déteste.
Ah, voilà, non, mais dis-le.
On a un article là-dessus sur Mademoiselle, sur le jugement de l'orthographe, mais c'est un vrai truc. Mais
depuis que je suis chez Mademoiselle, depuis la sortie de cet article, d'ailleurs, que j'avais lu, et même l'article de Cassandre, qui avait vécu un an à Los Angeles et qui avait eu du mal à retrouver son français et à bien écrire en français, tu vois. Ouais, bah sorry quoi. Et comme moi, quand j'étais à Miami.
Cosmopolite, voilà, ça te parle.
Ouais, ça te fait perdre un peu pied.
Tout de suite, ça me parle. Et donc, du coup, depuis, je suis devenue vachement plus indulgente, je pense, qu'avant, où il y avait une forme de snobisme aussi. Où,
bien sûr.
Alors que c'est con, ça peut t'arriver. Mais du coup, moi, ça me vexait beaucoup plus avant quand on me reprenait sur des trucs d'orthographe parce que j'étais un peu la queen en orthographe, tu vois. Et j'étais la queen en orthographe et la référente aussi dans mes amis avec une autre de mes potes sur les paroles de chansons en anglais. Donc
toi t'es la meuf du premier rang qui encadre en vert et tout, mais du coup t'es pas une repreneuse cool, t'es une repreneuse.
Déjà, j'encadrais pas en vert et j'étais pas au premier rang parce que j'étais au dernier rang avec mes copines. Et toi, t'es pas une repreneuse cul. Vas-y, je ferme ma gueule.
Alix et moi, ça fait deux jours qu'on vit une rupture.
Ah ouais, en conflit,
une rupture terrible. On s'entend
a quand même
pas.
La personne qui a traité un mec sexuelle, de connard hein. Parce qu'il a confondu le ouais. Ramen, qui a dit que Alix n'était pas la repreneuse cool. Quand même, la paille la poutre dans cette émission, c'est incroyable ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'on disait ? Non, mais en vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis devenue plus tolérante depuis que je bosse chez Mademoiselle sur vraiment beaucoup de sujets. Vraiment, en même temps, il y avait beaucoup de marge.
Il y avait du boulot. Il y avait de quoi déconstruire un petit peu, ouais.
Il y avait de la marge. Mais et je suis consciente que ça, c'est un truc un peu classiste quelque part. Tu vois, je sais très bien que c'est voilà. Donc du coup, je suis là. Je sais que c'est pas bien, mais je peux pas m'empêcher parfois d'avoir envie de dire c'est bon là. Juste faites un putain d'effort. Demandez. Est-ce que c'est infinitif ? Est-ce que c'est le participe passé ? Moi, je vous le fais.
Demande-moi, frère, je te le fais.
Moi, je vous le fais. Je vous le fais. Je m'en bats les couilles. C'est gratuit, tu vois. Mais voilà. Mais c'est un plaisir. J'aime reprendre. C'est comme ça. Voilà. C'est mon.
Mais c'est comme ça que tu montes de l'affection.
JBB, t'en es fait un kiff. Voilà, c'est fabuleux.
Mais une fois, alors non, tu veux que je te raconte le plus gros kiff de toute ma vie ?
Vas-y.
Attention. J'étais...
C'est dans le même...
Ah oui, c'est le même sujet.
Ok, parce que...
c'est triché.
Les éclairs au café.
J'étais à l'époque en première année d'école supérieure. Je vous plante le décor, on est à Lizit, une école, on peut dire... c'est quoi cet adjectif ? Lugubre. Une école lugubre parisienne, absolument abominable, où vraiment l'intérieur de l'école, c'est un peu des carreaux en mode piscine. Tu sais, genre, t'as l'impression que ça va sentir le chlore, mais en fait, c'est des bonnes sœurs qui passent, parce que derrière, il y a l'Institut catholique de Paris, donc, enfin, vraiment, c'est un enfer. Enfin, j'ai détesté chaque seconde que j'y ai passé pendant 3 ans. Et en fait, un des seuls cours que j'aimais, c'était le cours de géopolitique. Non,
en
c'est
allemand.
Pas ça, c'est pas la même histoire, pardon. Attends.
J'étais dedans.
Moi, je t'ai planté comme
j'étais
ça
là,
dans le
ça
décor.
Sent le chlore, il y a des bonnes sœurs, ok, j'y suis.
Non, mais c'est la même école.
Ça devrait sentir le chlore, mais ça.
C'est la même école. Okay, c'est juste pas, le même cours.
D'accord.
C'était, oui.
Non, j'ai rien dit en plus. J'ai juste dit la géopolitique en allemand parce que je sais que t'es.
Ah oui, non, mais ça, faut pas m'en parler. Non, le donc il y avait le cours de français. Et en fait, on part dans une dissertation, machin, et je dis, Mimi, elle se cache, genre elle est gênée, genre ça va pas, Mimi, tu cliques.
Non, je suis fascinée de ta vie.
Et genre, je fais une dissertation et j'écris machin sans crier gare, blablabla. Bref, je donne ma dissertation et le prof corrige pendant la deuxième heure où on faisait je sais pas quoi. Et en fait, il me rend ma copie et je vois que j'ai une note bien inférieure à ce que je pensais. Sauf que d'habitude, je suis assez bonne juge de moi-même. C'est-à-dire que quand je mens pas, moi, je mens pas comme tous ces gens qui disent j'ai raté, qui ont réussi. Moi, quand je dis c'est de la merde, j'ai 3.
La meuf est entière.
Statement de A à Z.
Ah non, vraiment, toutes les fois où j'ai dit c'est de la merde, j'ai eu 3. Ma pote Laura me dit c'est de la merde, elle avait 18, j'étais là, nique-toi bien. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, et donc le gars me ramène ma copie, et je vois ma note moyenne, et je vois qu'il me barre sans crier gare, il me met en rouge, il m'enlève un point. Je lève la main, je lui dis.
Elle a levé la main comme une bitch, genre vraiment. Je lève la main avec le poignet qui fait une torsion et tout, genre, monsieur.
Mais ouais, j'étais là, excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi j'avais eu un point en moins pour sans crier gare. Et il me dit, venez me voir, mademoiselle Rumpfel. Et donc j'arrive, et je lui dis, donc pourquoi ? Et il me fait, c'est pas français. Je lui dis, ça n'est pas français, sans crier gare, ça n'est pas français donc.
C'est une expression qui existe quand même.
Oui. Exactement, je lui dis, n'hésitez pas à aller checker sur internet. Il me fait, je le ferai. Il me fait, je lui dis, non, faites-le maintenant, comme ça, peut-être on peut réestimer ma note. Il le fait. Il me fait,
c'est de 8
ans. Je suis navrée, voilà. Et donc il a dit à toute la classe, aujourd'hui par exemple, la preuve que même un professeur peut se tromper, puisque. Et il m'a donné un exemple et j'étais là, bien!
Mais il a bien réagi et tout.
Ouais,
et
toi,
la nuque-toi.
Ça m'énerve quand les gens ils savent pas. Et
mais ils croyaient qu'ils savaient.
Oui, c'est pour ça que je te dis, c'était mon gros kiff. J'ai repris ce professeur qui était quelqu'un que je trouvais en plus éminemment brillant et que j'admirais beaucoup. Et que, en plus, c'était un peu. Pourtant, il était pas du tout mon style physiquement, mais je l'imaginais toujours sexuellement avec des chaussettes un peu hautes en train de faire du sexe comme il serait sur un poney. Voilà.
D'accord. Ok. C'est bien.
C'est... Incroyable information.
Je sais pas comment enchaîner.
Alors, Moi, je voudrais enchaîner avec un message. Si vous êtes une personne qui estime être en relation toxique avec Kalindi, n'hésitez pas à envoyer un DM à Laisse-moi kiffer et nous vous protégerons. Nous ferons un système d'exfiltration. Tout comme dans les bars, il y a des noms de code pour si on est dans un date qui se passe pas bien. Si peut-être Kalindi vous traite de connard parce que vous avez confondu ramen et soupe, vous pouvez parler. Vous n'êtes pas obligé de rester tout seul avec ça. Vous n'êtes probablement pas seul.
Non, mais je l'ai fait qu'avec mes amis, ça va. Mes amis, ils ont signé, hein. Non mais attends, sinon je suis super sympa, souvent j'invite à boire des coups et
mais
tout.
Mais t'es adorable, t'es adorable.
T'es un vrai ange. Merci.
Mais quand même,
je me suis mal vendue, c'est chaud.
Mais non, mais c'est non, parfait.
Tu sais quoi, on est quand même à l'épisode 110, ouais, je pense que les gens ils commencent à connaître le bestiau quoi. C'est bon, si c'est va. Votre premier LMK, franchement écoutez-en d'autres, Kalindi elle est cool.
Ouais.
Elle a des plaisirs un peu chelous des fois, mais franchement elle est sympa.
T'es vraiment la pire meuf.
Mais merci beaucoup, Kalindi.
Mais de rien,
merci. Merci, Kalindi.
Oui. Intense.
Ah ouais, ouais, ouais.
On se
ouais.
met à qu'un finalement, tu vois.
Ah bah là, c'est dur, hein, après, ouais.
Eh bien, moi, je vais finir avec mon kiff, du coup, qui est totalement différent. Ça se passe sur Netflix, comme pour toi, Mimi.
Dingue.
Et c'est un documentaire.
Oh.
Oui. C'est un documentaire qui s'appelle La sagesse de la pieuvre.
Ouais.
Wow.
Alors, La sagesse de la pieuvre, déjà, je trouve que le nom français est pas ouf. Commençons par là. C'est My Octopus Teacher.
Oh.
In English. Voilà. Déjà. Donc, c'est plus un côté vraiment enseignant. En fait, t'apprends de. Enfin, le gars apprend de la pieuvre plus que la sagesse de la pieuvre. Enfin, la pieuvre est pas plus sage qu'une autre, tu vois. Enfin.
Elle est un peu conne, la pieuvre. Voilà, ouais, c'est
pas, mais non, pas du tout.
C'est une œuvre médiocre.
Non, mais pas du tout. Mais en fait, c'est pas. Enfin, en fait, je trouve que justement, c'est pas axé sur le bon truc. Le titre est mal traduit parce que vraiment, c'est tout le documentaire est axé sur le côté enseignement et apprentissage de la nature par la nature, tu vois. Alors que la sagesse, je trouve, c'est un peu. Voilà, c'est pas très très grave. Mais du coup, c'est l'histoire de Craig.
Maintenant qu'on a bien débattu
la reprise
français, anglais, voilà.
Alix, les langues et tout, c'est son truc aujourd'hui. Hein.
Donc du coup, c'est l'histoire de Craig qui est un cinéaste. Et suite à une déception, je crois que c'était professionnel, il s'est un peu renfermé sur lui-même et tout. Il est allé en Afrique du Sud où il a passé son enfance. Et donc il a commencé à aller se baigner tous les matins dans l'eau sur le cap des dans le cap des tempêtes, qui est vraiment à la pointe de l'Afrique. Et c'est vraiment un cap ultra violent, genre il y a vraiment des vagues de partout, enfin ça fait super peur, genre le gars il y va genre sans combi, sans rien, l'eau elle est à 8-9 degrés, tu vois, et il était là, bah en fait moi du coup le matin j'y vais comme ça, et puis au fur et à mesure je m'habitue au froid et le corps a besoin du froid au fur et à mesure et tout,
pas
j'étais
vraiment,
là.
Je pense pas que c'est scientifique.
Moi jamais je me suis, mais en fait il disait que l'adrénaline, parce que t'as tout un moment où du coup ton corps est en choc thermique au début. Et puis après, t'as une libération d'endorphines, donc t'as 15 minutes qui sont bien. Après, t'as trop froid, tu vois, il faut sortir. Okay. Mais t'as 15 minutes.
C'est comme les gars qui vont faire le nouvel an dans l'eau en Islande et tout, en mode tout le monde tout nu, on va dans l'eau, on revient très vite, mais c'est rigolo.
Mais même,
c'est
ils ça. Font ça tous les matins. Et en fait, je crois que le froid, ça fait en sorte que ta pompe cardiaque, elle travaille en fait.
Ah bah, j'imagine, ça la démarre sec.
Du coup, ça décrase tes artères et t'as moins de chances de crever dans des artères bouchées, j'imagine.
Bah peut-être, ouais, je sais pas, mais en tout cas, il parlait de ces endorphines qui étaient libérées.
Ceci n'est pas un podcast médical.
Ne faites pas tout ce qu'on dit. Tu te reprendras toi-même dans le prochain épisode quand tu as refait tes recherches.
T'as su penser qu'on fait des recherches après les épisodes.
Il y a que toi qui fais ton mea culpa sur les Algériens et le couscous.
Mais oui, mais parce que j'aurais pas aimé qu'on dise oui, les Marocains ils font du couscous merguez alors que c'est pas vrai, donc je comprends, tu vois.
Non, mais c'est vrai.
C'est la solidité, la solidarité.
Donc je parlais.
L'eau froide. Merci. On était sur la froideur de l'eau.
Donc voilà, et en fait il fait un rituel comme ça, il va se baigner tous les matins. Et puis un jour il découvre une sorte de lac un peu plus calme. Enfin, c'est pas un lac, hein, parce que c'est directement dans l'océan. Mais c'est plus calme et il y a une forêt. Alors je sais plus comment elle s'appelle cette forêt.
Mais bref. En fait, c'est comme on dirait des grosses algues qui sont comme des arbres. Et en fait, à la surface, ça fait un magma un peu de vert. Mmh. Mais quand tu plonges. Mais en fait, quand tu plonges, c'est juste des étendues d'eau avec des fins.
Comme dans Harry Potter, dans Harry Potter 4, l'épreuve.
C'est vrai. Non, franchement, c'est impressionnant. En fait, c'est ce qu'il dit, c'est une forêt.
C'est impressionnant, mais ça m'angoisse les algues.
Ouais, moi aussi. Mais moi aussi. Mais du coup, mais moi aussi,
ça
je suis d'accord.
Ça va, t'aimes pas les crabes parce qu'ils font des trous ronds. Laisse-moi être angoissée par les algues, j'ai le droit.
Du coup,
j'ai le droit. Après, elles te touchent et tout quand t'es dans l'eau. Bref, pardon. Pardon.
Tu
tu peux parler.
Sorry. J'étais trauma par la forêt d'algues.
Non, mais oui, mais c'est une forêt d'algues. Et au début, c'est pas très ragoûtant, je t'avoue. Moi, je suis là. Pourquoi ils plongent pas dans des eaux turquoises comme tout le monde, tu vois? Voilà. Et en fait, bah voilà, c'est, ils plongent que au tuba aussi. Donc, c'est assez intéressant. Ils plongent sans combinaison. Donc, il doit remonter tout le temps. Et un jour, il fait la rencontre, enfin, une rencontre un peu chelou d'un amas de coquillages qui sont, enfin, autour de quelque chose qu'il n'arrive pas à discerner. Et tout d'un coup, tous ces coquillages tombent et il y a un poulpe qui part en courant, tu vois. Enfin, en se propulsant. Et là, il fait, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, il revient chez lui, il fait ses recherches, il dit, mais...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est quoi cette capacité du poulpe à pouvoir s'armer de coquillages? En fait, elle prenait des coquillages sur chacune de ses ventouses, tu vois, elle en a 2000. Et du coup, t'es caché, tu vois. Il était là, mais c'est quoi ce phénomène? Et tout, il trouve rien dessus sur Internet. Et donc, finalement, il retourne tous les jours à ce même endroit et il commence à observer ce poulpe qui s'avère être une femelle poulpe.
Oh, trop bien.
Et ou pieuvre, hein, on peut dire les deux.
D'accord.
Voilà. Et...
D'accord. J'ai l'impression que t'as un petit carnet, Marie. Genre,
d'accord, poulpe, comment pieuvre, pareil. C'est pareil, c'est ok.
Non, mais c'est plus dur de dire une poulpe, un poulpe femelle qu'une pieuvre, tu vois.
C'est vrai.
Donc, il trouve cette pieuvre et donc il la voit. Puis au début, ils sont en phase d'approche. Donc, il la voit dans sa tanière. Elle a peur. Elle le regarde un peu bizarre. Et puis, il la suit, mais un peu de loin. Et puis, il doit remonter souvent à la surface pour respirer, etc. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il se lie vraiment avec cet animal, tu vois. Et c'est un truc de taré. Et justement, c'est pour ça que c'est un documentaire animalier. Parce que moi, j'adore les documentaires animaliers. J'avais pleuré pendant je sais pas combien de temps après Blackfish. Enfin, c'était horrible, tu vois. Mais même, j'aime ça en règle générale, quoi. Et en fait, je trouve que justement, là, le focus est pas fait sur tant l'animal, même si t'apprends des choses de fou sur le poulpe et sur tout ce qu'il sait faire. Et en soi, il nous ressemble beaucoup parce que il explique, donc c'est un mollusque, c'est un mollusque qui n'a aucune défense, tu vois, et qui doit utiliser seulement son intelligence et son observation pour se fondre dans la masse, pour se cacher de ses prédateurs, tu vois. Ce qui nous ressemble pas mal parce que finalement, on n'a pas trop de défense contre la nature, tu vois, et c'est avec notre intelligence qu'on s'est fabriqué des maisons, enfin voilà. Je schématise, hein, bien sûr.
Je sais pas faire que ça.
Je trouvais que c'était un très bon résumé de l'histoire de l'humanité. Dans ce podcast scientifique qui est le nôtre, c'est très bien.
Mais du coup, il disait qu'il se ressemblait plus qu'il ne pensait. Et en fait, lui qui observait beaucoup les animaux, la faune notamment sous-marine, qui a fait ça depuis son enfance, t'es pas particulièrement attaché aux animaux. Enfin, il les respecte, tu vois, mais il a pas de... Comme, un peu comme Marie.
Oui, ça, j'allais dire un peu comme moi. Je m'en fous, mais... toi,
voilà, c'est ça, il s'en fout, mais...
Il leur file des coups de pied, mais
ça me met mal. Enfin, ça me met mal quand il y a des animaux qui se font maltraiter, tu vois, mais je suis pas touchée quand je vois un animal, tu vois.
Ouais, ouais. Alors que là, en fait, il dit, j'ai vraiment développé ce truc-là envers cette pieuvre, tu vois. Et donc, je vais pas du tout vous spoiler le reste du documentaire, parce que c'est vraiment passionnant, et c'est un peu... Je crois qu'il est resté avec elle, parce qu'un poulpe, ça vit un an, à peu près.
Oh. Sérieux?
Je
croyais que ça vivait hyper longtemps.
Et non, ça vit un an.
Dit ça aussi.
Ça vit un an, et c'est assez ouf la manière dont ça meurt, donc je vous laisserai voir. Mais en fait, il a été avec elle pendant... bien les trois quarts de sa vie, je crois. Enfin, voilà, il l'a observé quand même pendant les trois quarts de sa vie, donc plus de 300 jours, il me semble. Donc ouais, vraiment, c'était impressionnant. Bien sûr, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, il s'attache vraiment à l'animal et c'est plus qu'un documentaire où t'es observateur. C'est vraiment une rencontre, tu vois. Et ça en dit aussi long sur la nature humaine et quelle place on a dans ce monde sauvage. Parce que là, c'est vraiment l'état sauvage, tu vois. Il est dans une forêt où personne ne va plonger jamais, tu vois. Et il rencontre cette pieuvre. Et on s'est tellement évertué à vouloir diriger le monde et du coup à s'extraire un peu de cette vie sauvage et à se déconnecter de la nature en mettant plein de trucs entre nous et la nature, tu vois. Et en fait là, c'est vraiment une reconnexion où il observe l'habitat qu'il découvre de fond en comble. Enfin, il regarde des trucs, des trous dans les coquillages. J'étais là, what? Mais enfin.
Et puis il dit en plus qu'il y a. En fait, tu te rends vite compte dans ces endroits-là, justement ultra sauvages, qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas encore été découverts. Il dit vraiment, en fait, tu peux faire une découverte toutes les deux minutes, quoi.
Cette
cette position là au début sur lequel il trouve la pieuvre, c'est expliqué ensuite pourquoi, enfin ce que ça voulait dire, etc. Donc c'est un peu le point d'ancrage du spectateur. Il fait je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'allais le découvrir. Et puis voilà, tu le sais à la fin. Ouais. Quoi. Et mais non, mais en fait je trouve que ça te remet aussi dans, ça remet l'homme vraiment dans l'état sauvage, tu vois, quelle place il a. Est-ce que il est, enfin, tu vois, l'homme c'est quand même un être émotionnel et qui crée des connexions avec les autres êtres vivants. Et donc tu te poses la question, est-ce que vraiment dans les documentaires animaliers il faut avoir de l'interaction avec les animaux? Dans quelle mesure il faut l'avoir? Enfin, tu vois, et c'est ultra intéressant. Et je trouve que c'est un documentaire autant sur les pieuvres en règle générale, qui sont un qui sont des animaux ultra intelligents, hyper sensoriels et hyper sociaux aussi. Et que sur le documentariste, en fait, et l'humain en règle générale. Voilà.
Waouh, c'est magnifique. Dingue. Franchement, ouais, c'est j'ai envie de le regarder direct.
Ouais,
c'est
je vais peut-être le mater ce soir.
Ah, moi aussi.
Envie, en vrai.
C'est trop bien.
C'est la DEP. Hein. Faut prévenir quand même, c'est la DEP. Ah. Hein.
C'est non,
la DEP.
C'est la DEP.
C'est pas la... En fait, c'est la nature.
Est-ce
tu
que
vois,
c'est tout un truc où genre il te montre un animal super et après il dit et il va mourir à cause de l'humanité?
Merci. Non, pas du tout. C'est pas du tout.
Il y a toute une mise en scène un peu mélancolique, tu vois. Dès le début, il pose le truc. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu filmé avec le fion, mais après, c'est...
mais il n'a pas beaucoup de moyens. Mais tu vois, encore une fois, c'est un plongeur qui est nu. Enfin, tu vois, tu vois jamais des plongeurs nus à côté. Et puis, il est dans le champ, quoi. Donc, c'est pas... C'est très bizarre, en fait. C'est un acteur, vraiment, du documentaire.
Non, franchement, j'ai trouvé ça trop bien. Et je trouve que ça te fait passer par plein d'émotions, parce qu'il y a aussi des moments où tu flippes, genre, il y a un moment donné où il fait de la plongée la nuit, moi c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire.
Ah, ça va être stylé.
J'ai toujours rêvé de faire ça, sauf qu'en fait, ça coûte une fucking blinde de faire de la plongée la nuit. Et là, il plonge la nuit, sauf qu'en effet, le gars, il plonge sans bouteille. Donc, il y a quand même ce délire il faut qu'il aille respirer toutes les 5 secondes. T'es dans un environnement où les animaux chassent la nuit. Mm-hmm. Les requins, etc., sont vénères la night venue. Donc, tu deviens quand même une.
Vraiment, avec un air très sérieux, les requins sont vénères la night venue.
Et ouais, t'es là, waouh. Et il dit, en fait, on entend le chant des baleines. Ouais. Tu vois, t'imagines, t'es la nuit, en fait, t'as juste ta putain de lucarne de front. T'as putain c'est... de frontal sous la flotte avec juste ton tuba, t'es en apnée. Il y a des requins et t'entends.
Tu fais bien la baleine.
Ah, moi, tout
vous faites bien la baleine, chérie.
Donc t'es là, waouh, c'est, il y a une ambiance dans ce docu que j'ai trouvé dans peu d'autres docus. Et je pense que le fait qu'il soit vraiment solo et qu'en fait il y a peu d'animaux, t'en vois quelques-uns,
oui.
C'est pas la folie des poissons, les barracudas, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? Dès que j'ai un truc, vous êtes relou.
Excuse-nous, Camille.
Non, mais en plus, c'est des animaux un peu, comment dire, communs, tu vois, enfin que tu peux retrouver en France. Enfin, moi, la vérité, j'avais une histoire compliquée et conflictuelle avec les poulpes, puisque
storytelling.
J'étais dans le sud de la France avec mes copains et on faisait des petites vacances à Fréjus. Et avec ma copine, on était sur une sorte de crique, tu vois, le midi. Et tout le monde faisait... Enfin, il y avait 2-3 autres couples qui se baladaient, tu vois. Et nous, on était 3 et tout le monde faisait la sieste. Sauf nous, on venait de finir de manger. Et donc, c'est le sud de la France dans la côte est. Donc, tu sais, t'as mal aux pieds parce que c'est des galets par terre. Donc on n'avait pas pris nos méduses bien sûr et donc on avançait comme ça, on avait trop mal aux pieds et on se met mais dans littéralement allez 10 cm d'eau juste pour tremper nos pieds. Là je sens un truc qui m'agrippe, je me dis putain il y a des algues, c'était un putain de poulpe qui m'a attrapé le pied comme ça et j'ai levé le pied, le poulpe a volé comme ça. Et il est retombé dans l'eau. Et du coup, on hurlait à la mort, on a réveillé tout le monde, on courait sur les graviers qu'on avait mis 8 ans à franchir, tu vois, on est revenu.
Poulpe aurait clairement fait pareil.
Non mais et après, on est retourné juste pour voir, tu vois, et le poulpe en fait, donc c'est un champion du camouflage, était de la même couleur que les graviers.
Énorme.
Enfin que les
J'aime
galets.
Trop les vidéos de poulpes qui changent de couleur et de forme et tout, ça me fascine.
Mais c'était un délire. Et du coup, on était là et j'en ai fait une story Instagram et j'ai dû le détourer parce que les gens le voyaient pas, tu vois.
Énorme.
Ah non, mais c'était impressionnant. Et j'étais là, c'est ça qui m'a mordu le pied. Enfin, en fait, il a dû vouloir se dire, qu'est-ce que c'est que cette merde?
Peut-être il voulait tirer la main, tu vois.
Peut-être il voulait dire bonjour. Mais tu vois, maintenant que j'ai vu ce documentaire, bon, déjà, je peux plus manger de poulpe. Et en plus, je me suis dit, ce poulpe, peut-être j'ai une connexion moi aussi avec un poulpe.
Sauf que t'étais pas un plongeur nu en dépression.
Mais non, mais c'est un.
T'as juste fait.
Mais non, mais c'est un animal tellement craintif et enfin c'est une proie, tu vois, tout le temps et tout le temps. Et en fait, là,
tu as marché sur la tête, c'est un peu normal.
Mais non, j'étais sur mes graviers, j'étais debout, tu vois, et tout d'un coup, je sens un truc qui m'a. Et donc, en fait, c'est lui qui, je sais pas s'il chassait ou pas, tu vois, mais.
Ouais, peut-être qu'il s'est dit, on connaît pas trop, mais
ah, mais c'était
là,
à Marseille!
Eh oui!
C'était à Fréjus-Chiné.
Harcèlement de plage par un peu.
Mais non, mais c'était très bizarre parce que vraiment, enfin, après avoir vu le documentaire, je me dis, mais quel genre de comportement c'était? Parce que quand il chasse, tu vois, il se met pas du tout de la même manière que quand il va toucher. Du coup, parce que je vous spoil, mais à un moment, ils ont un contact avec le plongeur. Donc, tu vois, c'était vraiment étrange, quoi. Puis après, il est resté sur le bord comme s'il nous attendait. Je me dis, j'ai peut-être raté un truc avec un poulpe.
Peut-être qu'il était malade.
Ouais,
non, peut-être
qu'il demandait de l'aide et moi je
parce
lui ai foutu un coup de pied.
Comme ça.
Ah ouais, non mais vraiment à 10 cm d'eau quoi.
Moi je me souviens quand j'étais petite avec mon papa à l'île Maurice, on allait faire de la pêche, je crois que c'est un peu interdit maintenant, mais de la pêche au harpon. Et enfin avec ses potes, parce que mon père n'a jamais assassiné un animal, même pas une mouche. Mais on a vu, donc j'ai vu des potes de mon père pêcher le poulpe comme ça en fait. Au... Mais c'est pas vraiment un harpon, parce que je crois que c'est un truc. Mais le harpon, tu tires et ça. Ouais. Là, c'était une sorte de
lance,
de pique, voilà. Et il plantait dans la tête directement de la pieuvre et il les sortait. Oh. Et moi, je refusais après de manger les barbecues de poulpe. Aujourd'hui, je suis là, vas-y ramène, tu vois. Mais même si j'ai été, enfin moi, ça m'a beaucoup touché. Le truc du poulpe aussi, du coup j'ai pas regardé jusqu'à la fin, mais
parce que tu veux continuer à manger du poulpe.
Non, parce que il y a un petit moment triste, mais je pense que ça passe vite. Après, Alix m'a raconté la suite, donc je regarderai, mais vraiment je trouve que le documentaire est ultra mélancolique et tout, et je sais pas, j'étais pas dans un mood pour ingérer ça, genre déjà oui, que c'est... je pleure dès que je vois mon putain de chat, si je dois pleurer dès que je vois un animal, je suis là, vas-y, je peux pas devenir une fragile à ce moment là quoi, tu vois.
Mais voilà, moi je vous conseille, si voilà, vous allez pleurer. Moi, ma mère me l'a envoyé en reco, tu vois, elle m'a fait oh regarde ça, tu vas encore pleurer.
Elle te l'a dit comme ça, oh, regarde ça.
Bah elle l'a écrit en SMS, donc elle a prié exactement comme ça, quoi, mais j'imagine.
Je l'ai regardé direct.
Ouais, franchement,
merci pour la
ouais, ça a l'air grave bien.
Mais pas de problème.
Mais c'est en fait, je trouve que c'est moi ce que j'adore, c'est tous les documentaires où justement les hommes essayent de devenir poteaux avec des animaux. Et en fait, t'avais ce gars là, Kane Richardson, qui il a fait des milliards de documentaires et tout, mais c'est le gars, vous savez, qui a vécu parmi les lions. Et en fait, pendant des années, son travail, ça consistait à faire un pas de plus chaque jour dans la savane vers les lions. Et en fait, tu le vois, il y a plein de trucs gratuits sur YouTube
une plateforme
c'est une plateforme que je viens de découvrir.
Non, mais c'est aussi des vidéos gratuites.
Ma mère, elle écoute, tu vois. C'est pas vrai, ma mère est maîtrise de ouf YouTube, mais et voilà, tu le vois faire un pas après l'autre, et parfois il est obligé de se rétracter parce que les animaux deviennent agressifs, et je trouve ça trop intéressant de voir comment les mecs finissent par
La différence ici, c'est que il avait pas envie de créer du lien avec ce poulpe, tu vois. C'était juste une observation, et en fait il a fini par créer, et c'était pas du tout une intrusion. En fait, c'est ça, à la base il voulait pas du tout s'introduire dans l'état sauvage, tu vois, et justement il y a tout ce questionnement autour de ça, tu vois, est-ce que enfin tu vois, le mec qui fait avec les lions, je suis là, c'est trop bien, tu vois, moi aussi j'aimerais trop kiffer avec les lions, mais ça veut dire aussi intervenir dans ce milieu, est-ce que t'as ta place là-dedans et tout, et lui il se pose plein de questions comme ça, donc ça c'est intéressant, tu vois.
De ouf,
trop stylé,
voilà,
trop bien.
Eh bien, ce kiff signe la fin de cet épisode.
Waouh! C'était trop bien, on a bien rigolé.
C'était très cool.
On a bien rigolé.
Merci à tous d'être restés jusque-là. Merci à vous d'avoir participé. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos jingles.
On n'a pas fait les jingles.
Mais parce qu'on n'a plus mini kiff et gros kiff.
Eh bien, on va réfléchir à
un jingle. Ouais, mais quand on a 50 de rubriques avant, c'est juste les rubriques du kiff, quoi.
C'est ça qu'il n'y a aucun jingle.
Oui.
Ouais.
On a plus de rubriques que de kiff maintenant, quand même.
Oh putain de ouf!
Bah, peut-être on va trouver un jingle qui sera tout le temps le jingle des kiffs.
Ouais, d'ouf, jingle des kiffs.
Comme ça,
c'est
voilà.
Moins participatif, c'était la beauté du.
Oui, non, mais tout le monde participe beaucoup. Il y a des anecdotes de stars que vous pouvez mettre sur Apple Podcast avec 5 étoiles, vos commentaires, vos vides bolos éventuellement si vous avez envie. Vos dédicaces que vous envoyez à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com en audio. Et puis, bah voilà quoi, ça fait déjà quand
c'est
même
pas
beaucoup.
Mal, oui.
Donc peut-être qu'on peut faire un jingle qu'on mettra à chaque fois. Voilà.
Très bien.
Et bien sûr, en attendant la semaine prochaine.